Variations en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir, spécial salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Nous sommes le 1er mai 2018 à Arras, en public et en direct. Guy Le Polarski au micro. Variation en noir est une émission mensuelle réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, un de ses ex-présidents, Hervé Delouche. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy.
Voilà, et merci d'être fidèle au rendez-vous de Variation en noir, mais aussi du salon du 1er mai à Arras. Alors, quelques précisions pour commencer par rapport à la présentation de ce rendez-vous qui figure dans la plaquette programme du salon, présentation qui, malencontreusement, n'a pas été corrigée comme elle aurait dû l'être. Alors, soyez rassurés, il n'y a pas d'erreur sur les invités. Elles, ils sont bien là. Gwenaëlle Denoyer, éditrice au Seuil, en charge de la collection Cadre Noir. Aussi, entre parenthèses, on y reviendra, membre éminente de l'association 813, comme tous ses membres, en fin de compte. Hein, c'est une association...
C'est ça, voilà. Comme toi, cher Guy.
Merci. Gwenaëlle Denoyer, accompagnée de trois de ses auteurs. Ça se dit, Gwenaëlle Denoyer, ses auteurs, quand on est éditrice?
En tout cas, j'en parle comme ça. Donc oui, je pense que oui, tu peux dire ça. Oui, voilà. Je dis tout le temps mes auteurs. Je ne sais pas si ça les dérange ou pas, mais c'est peut-être un petit peu maternant, mais c'est ma manière d'en parler.
Alors, Franz Bartelt, Sophie Chabanel, par ordre alphabétique, hein, et Jackie Schwartzmann. Les invités sont bien là. Il s'agit bien d'une rencontre PFM 813. Alors désolé Hervé, mais j'ai engueulé comme il se doit les rédacteurs de la plaquette qui ont oublié tout simplement de te citer. Et surtout, Hervé, nous envisageons cette rencontre au-delà de la simple idée d'éditer du noir qui apparaît dans la plaquette, tel qu'annoncé dans cette plaquette, et l'intitulé sur lequel nous nous étions mis d'accord, lui aussi zappé, donc ouvre des perspectives de discussion peut-être plus larges. Voilà ce qui aurait dû figurer dans la plaquette. Quand le roman noir n'est pas vraiment monochrome, gros plan sur la collection Cadre Noir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, parlons couleur et noir. Je ne sais pas si c'est une couleur. En tout cas, Cadre Noir, Gwenaëlle, ça vient de où, le nom de la collection et la collection en tant que telle, puisqu'elle est assez récente, hein, créée en 2017.
Oui, elle a un an et demi maintenant, ou même pas tout à fait. Le nom, en fait, il s'est imposé de lui-même, parce que donc, c'est une collection qui est au sein des éditions du Seuil. Et aux éditions du Seuil, en fait, la littérature étrangère s'appelle Cadre Vert, la littérature française s'appelle Cadre Rouge. Donc quand on a cherché un nom pour la nouvelle collection, Cadre Noir, voilà, on n'a pas été chercher bien loin, ça nous a bien plu. Donc ça, c'est pour le nom, c'est ça. Après, pour l'envie de faire de la collection, je pense que évidemment, le Seuil n'a pas attendu l'année dernière pour se mettre au roman policier. Mais en fait, historiquement, on avait donc notre ancienne collection qui s'appelait Seuil Policier, qui était quasiment exclusivement une collection rassemblant des auteurs étrangers. Voilà. Moi, je n'étais pas là. Hein. C'était une éditrice, Marie-Caroline Aubert, qui s'en occupait depuis pas mal d'années, qui avait voilà, ses goûts, sa prédilection, son métier, c'était les auteurs étrangers. Là-dedans, je pense qu'en quelques années, il y avait peut-être eu trois auteurs français qui surnageaient, mais du coup, voilà, on avait extrêmement de mal à vendre. Et donc, l'envie de faire, faire une nouvelle collection, de refonder cette collection au Seuil, partait vraiment de l'envie d'y apporter des Français, voilà, d'apporter des auteurs français, à terme, de faire autant d'auteurs de polar français qu'étrangers. Et aussi le fait de... Je vous ai dit que le Seuil, l'ancienne collection s'appelait Seuil Policier, et on avait aussi vraiment envie de changer de nom. Parce que s'appeler Seuil Policier, c'est très restricteur. Ça existe ce mot restricteur, ça restreint énormément les champs. Parce que voilà, effectivement, on va en parler. Je pense que maintenant, ça fait quand même quelques années que le roman noir, voilà, on n'édite plus uniquement des histoires de flics ou de voyous. C'est quand même beaucoup plus large. Et on avait vraiment envie d'introduire dans ces collections des choses plus larges et de s'appeler Seuil policier, c'était plus possible. Donc voilà, ça partait d'une envie de tout ça. Voilà.
Hervé, par rapport à cette évolution ?
Bah, oui, bien évidemment. Au début, quand, si je me souviens bien, quand Seuil policier s'était créé, c'était effectivement sous la houlette d'un directeur littéraire qui, c'était ses goûts et respectable, puis ça correspondait peut-être plus à une époque et une génération, qui ne publiait quasiment, d'abord, que des auteurs anglo-saxons et que des auteurs qui mettent en scène un détective privé, un policier ou, allez, peut-être un duo de policiers. Hein. Mais voilà, et forcément, bon, c'était ses goûts, son choix. Et puis, bah, comme le disait Gwenaëlle de Noyer, l'époque a de toute façon changé, y compris, bah, évidemment, le côté, le roman noir, l'impact social qu'il reproduit, et aussi le fait d'avoir de plus en plus envie d'avoir des textes à la fois variés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas monochromes, comme le disait l'intitulé que tu as rappelé, et puis qu'ils soient des textes vraiment littéraires et des textes forts pour ça, des textes qui aient du style, de l'écriture, ce qui est quand même, on est quand même, polar ou pas, noir ou pas, on est dans de la littérature.
Gwenaëlle de Noyer.
Il faut que je réagisse à ce que vient de dire magnifiquement Hervé.
Bon, il suffit d'acquiescer, hein, peut-être.
Oui, hein, merci.
Bon,
merci.
Bon, alors, avant d'en venir aux trois auteurs, hein, qui sont invités, qui vous accompagnent, une remarque quand même. Les femmes éditent le noir que les hommes écrivent. Alors, Sophie Chabanel est une forme de démenti de ce constat, mais il faut reconnaître que dans les catalogues et des collections de romans noirs, et dans le catalogue cadre noir, elles ont du mal à se faire une place. Les femmes, par contre, au niveau de l'édition et des collections les plus prestigieuses du genre, la série noire avec Stéphanie Delestré, Rivage noir avec Jeanne Guyon, donc les femmes prennent en charge ce rôle.
Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on constate que ces dernières années, tous les postes importants dans l'édition de Polar en France sont trustés par des femmes. On peut même citer des maisons d'édition, hein, qui sont créées par des femmes. Je pense aux éditions Asphalt, aux éditions Agulo, Mirobol, tout ça, ce sont des femmes. Je ne vais pas me lancer dans une explication sociologique du pourquoi on a plus de place qu'avant, je ne sais pas. Ça, voilà, je ne suis pas sociologue. En revanche, c'est vrai, oui, par ce que tu dis par rapport aux auteurs femmes, c'est vrai. Est-ce que c'est davantage visible dans Polar ? Je ne suis pas certaine. Je pense que je ne sais pas s'il y a moins de femmes spécialement en Polar. Mais c'est évident que moi, en tout cas, c'est une de mes envies, véritablement, d'arriver à publier, voilà, espérer publier autant de femmes que d'hommes. Mais après, c'est sûr que j'ai pas vraiment d'explication au fait qu'il y ait moins de femmes, parce que je pense qu'il y a les femmes écrivent aussi du polar. Je ne sais pas. Je sais pas si. Sophie, par exemple, qui est à côté de moi, a un avis sur la question en tant qu'écrivaine de Polar, mais autrice de Polar. C'est difficile de répondre à cette question, en fait, parce que moi, je prends des manuscrits parce que je les aime, je ne regarde pas spécialement si c'est un homme ou une femme qui l'a écrit. Il se trouve qu'effectivement, je pense que l'explication, s'il y en a une, et là, je me lance dans la sociologie de bas étage, je dirais que c'est vrai que statistiquement, je reçois plus de manuscrits d'hommes que de femmes. Je pense que les hommes ont plus le temps d'écrire, peut-être, que les femmes, qui ont moins de temps libre à la maison. Je pense que c'est peut-être vraiment une explication. Voilà, mais elle est sûrement pas. Il n'y a pas que celle-là. À mon avis, c'est un mélange de plein de choses. Mais je pense que pour écrire, il faut du temps, il faut de la disponibilité, il faut de l'argent aussi. Bah, il faut. Et je pense que effectivement, dans une société où les femmes ont moins de ça et peut-être ont moins le temps d'écrire, tout simplement. Est-ce que c'est ça ou autre chose? Je ne sais pas. Je suis peut-être en train de dire des horreurs.
Chabanel, une réaction par rapport à ça?
Alors, Gwenaël a qualifié son analyse de sociologie de bas étage. Je ne suis pas plus légitime qu'elle pour avancer des explications très scientifiques, mais spontanément, j'aurais tendance à adhérer pleinement à cette hypothèse, parce que, en tout cas, c'est un fait que les femmes ont moins de temps et d'argent que les hommes. Et donc, ça me semble une explication plausible, en tout cas pour expliquer en partie le fait que les femmes écrivent moins de polars et écrivent moins tout court aussi. Il y a peut-être aussi une question d'autorisation parfois.
Oui, tout à fait. Ouais, je pense. Voilà.
Peut-être que les femmes ont moins confiance en elles parfois sur leur talent.
Moins légitime, je pense aussi à investir ce terrain-là. Oui.
Alors il y a un manuscrit qui est arrivé au seuil, signé Jackie avec un Y, Schwarzmann, intitulé Demain c'est loin. Hervé, toi tu as
qui a reçu hier soir le 14e prix à Mila Mecker, c'est bien cela,
voilà,
je crois.
Donc qui a été édité et qui a reçu ensuite le
voilà,
prix.
Voilà. Et on va, Jackie Schwarzmann, déjà dire quelques mots pour te présenter aux auditeurs de PFM. Voilà, je crois que tu as accumulé différents boulots, pas forcément tous ni réjouissants, ni...
Oui, même aucun.
Bon.
aucun n'était réjouissant.
J'y allais prudemment et gentiment, mais bon, aucun. Donc, parmi lesquels, je crois que tu as travaillé en centre d'appel de l'EDF, tu as été éducateur, barman. Tu m'arrêtes si je me trompe, je crois que tu es assistant logistique chez Alstom. Je ne sais pas.
J'ai un poste qui a évolué, je suis approvisionneur, mais je suis toujours
approvisionneur
chez Alstom, qui a été racheté par General Electric.
D'accord.
Donc dans l'industrie, un métier passionnant.
Ce qui n'a pas forcément changé ton travail. Enfin,
Non, le changement de boîte n'a rien changé.
Non.
Ni à la feuille de paye d'ailleurs. Il n'y a pas eu, ou je n'ai pas vu. Mais...
D'accord. Tu l'aurais remarqué.
Je pense.
Ouais. Voilà, on peut évidemment penser que c'est cette expérience de réalité a nourri tes romans. Alors à propos de romans, moi je t'ai découvert avec Mauvais Coup, qui était paru chez un éditeur de petite taille, ce qui ne veut pas dire de petite qualité, de basse qualité, qui est La Fosse aux Ours. Mauvais Coup, c'était en 2016, je crois.
Oui.
Voilà, ça a été repris depuis dans la collection Point des éditions du Seuil. Juste un mot là-dessus, ça mettait en scène un personnage, Gabi Aspinel, qui était un acheteur dans une multinationale, je crois. Et la manière de le mettre en scène était déjà montrait déjà ta plume assez évidemment fortement humoristique, plutôt corrosive et puis toujours plutôt en demi-teinte, c'est-à-dire pas noir ou blanc.
Oui, voilà. On me dit souvent que le personnage est une sorte de salaud attachant. Alors moi, je trouve pas du tout que c'est un salaud, mais il est un peu dans une zone grise, quoi. Et le but de ce bouquin, c'était de montrer effectivement le quotidien d'un acheteur dans un très grand groupe, dans une multinationale. Notamment au moment de la vente, justement, du rachat d'Alstom par General Electric. Je m'étais fait un peu le projet de mettre en décor, on va dire, ce rachat, et raconter de l'intérieur. Alors, c'est pas que ça, hein, c'est vraiment uniquement le décor du roman.
Voilà, alors, tout autre genre de... Parce que, bon, Gabi Aspinel, disons, pour aller vite, hein, parce qu'il avait ses propres contradictions, mais enfin, disons qu'il était plutôt un peu de droite.
Voilà, ouais, bien, ouais, bien à droite.
Bien,
ouais.
Même, bien. Ouais. Plutôt libéral, plutôt beaucoup libéral,
plutôt
d'ailleurs.
Beaucoup, ouais.
Plutôt pas mal macho.
Ouais, en fait, c'est un salaud, en fait. Je vais présenter comme ça.
J'ai pas donné de jugement de valeur, donne quelques informations. Voilà, on peut pas dire que la morale, l'éthique l'étouffait chaque soir ou chaque matin. Et puis, d'une certaine, au-delà de ça, même de Mathieu, d'une certaine même misanthropie plus généralisée, quand même, voilà. Mais bon, le côté roman Grimm paraît bien, ouais. Et là, tout autre personnage, mais c'est toi qui vas nous en parler, Demain c'est loin, s'ouvre sur la figure de François Feldman.
Oui.
Voilà, inévitable. Tu nous... le brosse un petit peu ?
Alors, bon, déjà, il a un handicap par rapport à son nom, François Fellman. J'ai un petit jeu là-dessus dans le roman. Les gens lui disent tout le temps comme le chanteur. Alors, il se trouve que mon nom entier, c'est Schwarzman Fellman. Et moi, depuis toujours, on me dit comme le chanteur, donc c'est une vengeance, en fait, de ma part. Donc, c'est un type de banlieue, lui, qui est pétri d'ambition et de projets tous plus géniaux les uns que les autres. Notamment, il fait floquer des fausses citations d'hommes célèbres sur des t-shirts pour les vendre, avec notamment « Est-ce qu'on est bon avec les nouveaux freins ?» et c'est signé Ayrton Senna, ce genre de petites phrases. Ou alors « Puisque je vous dis que ça passe, et c'est signé le capitaine du Titanic. » Voilà, donc c'est ce... Et c'est un type qui essaie surtout de s'en sortir, de monter des affaires, des business, et il échoue à chaque fois. Et l'histoire de ce roman, c'est que ça y est, il a trouvé l'idée de génie qui consiste à acheter de la terre en Algérie pour la ramener en France par container, pour la vendre aux Algériens, pour qu'ils puissent se faire enterrer dans la terre de leur pays natal, mais en France.
Le problème, c'est que pour réaliser cette idée réellement de génie, ça...
oui, il a besoin d'argent.
Il a besoin d'argent. Et qui dit argent dit banque, populaire ou pas.
Oui. Et qui dit banque dit problème.
Voilà. Et dit un autre personnage qui va être.
Qui est sa conseiller financier, donc Julianne Bacardi, qui elle est très BCBG, fille de bonne famille, qui est bien à droite. Les deux se détestent, en fait. Ils ont vraiment absolument rien en commun à part de parler la même langue. Et il va y avoir suite à un accident de la route un petit peu rocambolesque, ces deux personnages se retrouvent obligés de partir en cavale ensemble. Avec à la fois la police et à la fois des caïds de cité à leur trousse. Ils sont que les deux et ils sont obligés de se sortir de ce mauvais pas à deux. Donc en se détestant et en n'ayant rien à se dire.
Alors c'est ça qui est une des grandes... Il y a plusieurs grandes forces dans ce livre, à mon avis, qui sont que d'un côté, on rit beaucoup, ce qui est quand même très agréable, très jouissif pour un lecteur, et pas si fréquent que ça. Deuxièmement, c'est trépidant, enfin, je veux dire, ça n'arrête pas de rebondir. Enfin, il y a une espèce... effectivement, ils sont dans une... Il y a une poursuite, une course. Et puis, la troisième chose, c'est quand même... T'as parlé de cet accident, d'une collision, mais c'est qu'il y a une autre collision. Alors,
ça entre les deux personnages.
Ouais. Ben ouais, entre les deux personnages, qui dans une, s'il n'y avait pas cet événement tragique,
ne se rencontrerait jamais.
Ah non, oui. C'est deux mondes.
Ben, je suis parti d'un constat, d'une réflexion. Je me suis dit, en France, il y a des gens, dans une ville, il y a des gens qui peuvent ne jamais se rencontrer, ne jamais se parler et passer toute leur vie comme ça, alors qu'ils sont sur un même territoire. Donc typiquement, un gars de banlieue et une banquière ne vont jamais se connecter. Et l'idée, voilà, c'était d'en prendre un de chaque camp, de les faire se cogner et puis de voir ce que ça donne.
Alors, Jackie Schwartzman, vous avez donné quelques citations sur les t-shirts fabriqués par François Fellman.
Voilà.
Il y en a d'autres, des citations, on ne va pas les reprendre, mais c'est vrai que ça a été dit, beaucoup d'humour, de la drôlerie. Hein, on a parlé aussi de drôlerie à l'occasion d'un autre rendez-vous. Mais en même temps, vous avez évoqué cet aspect lors du discours, lors de la remise du prix à Mila Mecker hier, en faisant référence à Pierre Bourdieu. Donc il y a un regard sur le choc entre des histoires culturelles, en fin de compte.
Ouais, mais il se trouve que c'est l'histoire de ma vie. Moi, je le répète souvent, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et je suis passé de la cité à la gauche caviar, à la bourgeoisie. Non, justement, je ne suis pas passé de l'une à l'autre, j'ai eu les deux.
En parallèle.
Tôt, voilà. Donc le week-end, j'étais à Panoise dans ma cité avec mes potes et tout ce que ça implique. Et la semaine, j'étais dans le centre-ville, dans les bonnes écoles. Et c'est deux mondes que j'ai en moi. Enfin, je ne pourrais pas choisir entre les deux.
Donc, oui. A priori, on peut écrire du roman noir, du roman noir avec de l'humour, et aussi tout en restant dans une tonalité d'expression populaire et de critique sociale, puisque le prix Amila Mekir, c'était un prix de littérature d'expression populaire et de critique sociale.
Oui, tout à fait. En tout cas, moi, c'est la prétention que j'ai dans mon écriture de travailler sur cette notion d'habitus de Bourdieu, justement d'héritage culturel, qui est pour moi la plus grosse injustice. C'est d'avoir des héritages culturels différents, avec des bons et des mauvais.
Se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu. Tenter le diable pour sortir de la galère, t'as gagné frère, mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, pousser au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger en deux temps trois mouvements. On coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend tour de bras. On fait rentrer l'argent, on craque, ouais c'est ça la vie. Et parle pas de RMI ici. Le rêve des jeunes c'est la Golf GTI. Survette Takini, tomber les femmes à l'aise comme Manny sur Scarface. Je suis comme tout le monde, je délire bien, Dieu merci j'ai grandi. Je suis plus malin, lui il crève à la fin justifie les moyens. 4 à 5 ou malsain, on tient jusqu'à demain. Après on verra bien, on marche dans l'ombre du malin. Du soir au matin, tapis dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin. Y'en a pas deux pour être un dieu, frappé comme une enclume. Pas tomber les yeux, l'envieux toujours entre une route. Pour y entrer, 2% s'en sortir, trois quarts cuir, réussir, s'évanouir, devenir un souvenir, être si jeune, en avoir plein le répertoire, des gars rayés de la carte qu'on efface comme un tableau du bas, c'est le noir, croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs, vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs, on y passe notre vie, on y finit, avant de connaître l'enfer, sur terre on construit son paradis, fiction, des illusions trop fortes, sort le chichon, la réalité tape trop dur, besoin d'évasion, évasion, effort d'imagination, ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit, on veut s'échapper de la prison. Une aiguille passe, on passe à l'action. Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs. Certains chanceux en ont dans la cervelle, d'autres se les envoient. Pour une poignée de bif, ton guerre fraternelle. Les armes poussent comme la mauvaise herbe. L'image du gangster se propage comme la gangrène. Sème ses graines de délinquants. Qu'espériez-vous tout jeune, on leur apprend que rien ne fait un homme à part le franc. Du franc tireur discret, au groupe organisé, la racine devient champ. Trop grand, impossible à
vous
arrêter.
Vous écoutez Radio PFM en direct, en public, du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Variation en noir, gros plan sur cadre noir au seuil. Alors Hervé
Non, je voulais simplement demander à Jackie Schwarzman si ce morceau lui disait quelque chose.
Pas du tout. C'est NTM, non ? Non,
je fais... je non, savais que tu répondrais ça.
C'est effectivement un clin d'œil à cette chanson pour le titre.
C'est Demain c'est loin, dans l'école du micro d'argent d'Ayam, c'est ça ?
Voilà.
Oui. Donc qui est quand même un morceau sur la vie des cités. Qui est, voilà,
oui, c'est celui-là. C'est vraiment. Alors après, c'est juste un petit clin d'œil. Hein, c'est,
J'ai bien compris. Mais on a fait un petit clin d'œil, nous aussi.
Oui, non,
justement.
Voilà. On avait un gros
perso, je préfère NTM également.
Voilà, on est d'accord alors.
Ouais.
Voilà,
on est... Alors on en revient au roman noir avec Sophie Chabanel, nouvelle venue dans le roman policier. Donc les spécialistes 813, on vous connaît pas encore très bien. Donc pour brosser votre portrait, eh bien on s'appuie sur la quatrième de couverture et sur la note de présentation qui figure dans la plaquette du salon. Alors je lis et puis vous me direz ce que vous en pensez. Après sa formation à HEC, Sophie Chabanel travaille quelques années en entreprise avant de bifurquer vers le monde associatif. Désireuse de contribuer à un monde du travail plus humain, Sophie Chabanel est aujourd'hui formatrice. La griffe du chat au seuil est son troisième roman et premier roman policier.
Je signe, tout ça est vrai.
Tout ça est vrai. Alors comment on en arrive, après ce parcours, à écrire du roman noir, donc du roman policier ?
Alors peut-être un mot sur mon parcours professionnel d'abord, parce que pour moi tout est un peu lié. En effet, j'ai travaillé quelques années en entreprise avant de faire le choix de m'engager dans l'insertion. Et l'idée du polar, pour moi, elle est un peu liée à cette envie de parler du monde et de faire bouger le monde de façon très très modeste, bien évidemment. Mais je trouve le polar était pour moi une façon de parler de la société. C'était un de mes objectifs quand j'ai écrit ce livre. Outre le fait que j'étais aussi attirée par l'idée d'une espèce de cahier des charges. Voilà, quand on écrit un roman policier, puisqu'en l'occurrence c'est un roman policier, il y a cette idée qu'il y a une trame préétablie avec une scène de crime, des flics qui enquêtent, et puis à la fin un coupable démasqué. Et j'aimais bien l'idée de m'inscrire dans cette espèce de filiation, enfin d'aller dans ces rails-là, plutôt que de repartir dans un roman voilà, où on flotte un peu dans l'espace. J'aimais bien l'idée d'avoir ces contraintes.
Alors, une étude américaine a prouvé que caresser un chat diminuait le risque d'infarctus. C'est vrai, ça ?
Il faut demander à mon éditrice, parce que c'est elle qui le dit. Hein.
En tout cas, il n'est pas encore dit que cela a arrêté les balles. Effectivement, hein, vous racontez... le point de départ, c'est le propriétaire d'un bar à chat à Lille. On n'est pas très loin d'Arras, qui est retrouvé gisant hein, dans son sang. Alors, on ne sait pas si c'est un suicide ou un assassinat. Et on ne dira rien, bien entendu, puisque c'est quand même un roman policier avec une intrigue qui se construit progressivement. Alors, Baracha,
en fait, c'est vraiment une idée que j'ai trouvée très déconcertante, très déroutante. Il se trouve qu'il y avait un Baracha tout près de chez moi. Je suis passée devant de multiples fois sans jamais y rentrer, mais je trouvais l'idée très bizarre, en fait, et l'idée que c'était une espèce de concept venu du Japon, et le concept en question consistant à mettre 10 chats dans un bar et... Et puis en plus, il y a eu une espèce de parallèle qui m'est venue, qui est peut-être un peu tordue, mais tout de suite, j'ai eu quand même cette vision du lien entre le bar à chat et le bordel, avec cette idée que dans les deux cas, il y avait ce côté relation tarifée, c'est-à-dire qu'on paye pour avoir le droit de caresser un être vivant. Donc ce parallèle, pour moi, il était... Il y avait quelque chose, je ne sais pas, qui m'a inspirée, et du coup... encore une fois, sans y mettre jamais les pieds, ça a été un des points de départ du livre.
Le bar à geisha, quelque part. Non. Et,
voilà.
Et donc, alors vous situez, on l'a dit, sur l'île, avec quelques incises sur la ville en elle-même, et vous faites un lien entre l'île et Marseille. On ne parle pas foot, là, on parle aménagement urbain, en expliquant que vous avez remarqué que ce sont les deux grandes villes de France où... eh bien, il y a des quartiers populaires qui restent présents dans les centres-villes ou à proximité des centres-villes.
Oui, alors ça c'est en fait c'est une remarque, pour être tout à fait honnête, que je ne me suis pas faite toute seule, mais j'ai lu plusieurs ouvrages sur la sociologie de l'île, et c'était une remarque que faisaient certains sociologues, qu'au-delà de la différence assez criante des deux villes et puis du fait qu'elles sont à peu près aux deux bouts du pays, il y avait une certaine similitude dans leur culture ouvrière et aussi dans cette présence de quartiers populaires dans la ville, qui est quand même tout à fait atypique dans les grandes villes françaises.
Donc un mort et une enquête, même si c'est un suicide, puisque bon, il y a quand même possibilité que ce soit pas un suicide, et une commissaire, Madame Romano, une femme libre quelque part. Est-ce que une femme libre, hein, pour aller plus loin, donc une femme qui par exemple refuse, je vais pas citer, hein, mais vous écrivez quelque part que elle refuse l'enfer conjugal.
Oui, alors disons qu'elle, c'est une femme libre, je pense que c'est un bon résumé. Là aussi, j'aimais bien aussi l'idée, par exemple, qu'elle n'ait pas d'enfant, et elle est pleinement épanouie, elle est bien dans sa vie, et ça, je crois que c'était quand même une envie de dénoncer un certain modèle qui est très prégnant, je trouve, en particulier sur la question de la maternité. J'ai l'impression que la société a beaucoup progressé en tolérance sur le fait qu'on divorce, on se remarie, enfin qu'il y a une certaine ouverture sur tout ça. En revanche, pour une femme, faire le choix de ne pas avoir d'enfant, ça reste très suspect, en tout cas en France.
Une femme un peu comme un homme, surtout dans la police alors.
Oui, surtout dans la police.
On a parlé avec le roman de Jackie Schwartzman de choc, d'héritage culturel. Est-ce que dans votre roman, on pourrait parler de choc, de réussite sociale, puisque donc le propriétaire du bar, c'est quand même quelqu'un qui réussit, qui s'enrichit grâce à ce bar. Et puis, il a un de ses amis de jeunesse qui a aussi réussi professionnellement. Lui, c'est dans la télévision, dans les médias. Vous en profitez pour griffer un petit peu un certain type d'émission. Et en fin de compte, deux personnes issues de la même ville, des mêmes origines sociales, qui réussissent, mais qui réussissent professionnellement, qui réussissent au niveau financier, mais des destinées complètement différentes finalement.
Oui, des destinées complètement différentes, avec notamment un qui devient une personnalité médiatique. Et là, vous disiez quelques coups de griffe par rapport au monde de la télévision. Pour moi, en effet, c'était important de dénoncer des pratiques qui, moi, me heurtent beaucoup, notamment sur tout ce qui est humiliation publique à la télévision. Alors, je parle même pas des émissions les plus bas de gamme, entre guillemets, de télé-réalité, sur lesquelles tout le monde est d'accord pour trouver ça assez minable. Mais je parle d'émissions qui sont plus qui sont plus légitimes. L'infodivertissement, puisque le mot existe. Où en fait, de façon peut-être un peu plus sournoise, on en vient quand même à ridiculiser des gens. Et là, je parle évidemment pas des hommes politiques ou des femmes politiques, mais plutôt des gens anonymes qui se font humilier, ridiculiser. Et c'est un truc que je trouve un peu curieux.
Alors on pourrait dire aussi des choses sur l'adjoint de Romano, qui est un homme qui est ailier et qui lui a un côté assez, qui a de belles valeurs, mais doublé d'une certaine rigidité, dirons-nous. Par exemple, parce qu'il faut dire que ça participe du fait de rendre, de donner beaucoup de fantaisie et de plaisir à la lecture de ce roman, parce que leur duo est épatant. Enfin, lui, par exemple, quand elle lui demande comment s'est passé le week-end et qu'il évoque le bilan carbone éducatif avec ses enfants, c'est assez désopilant quand même.
Oui, alors c'était l'idée effectivement que l'éducation est une affaire de compromis. Donc il essaye à la fois il vit avec le monde tel qu'il est, donc il laisse ses filles voir Hunger Games ou aller sur Snapchat, mais il essaye de compenser en les emmenant voir une exposition de Matisse ou en leur lisant un extrait de Victor Hugo. Donc je trouvais que la notion de bilan carbone éducatif avec cette idée de compenser le mal par le bien, ça me parlait bien.
On en arrive donc au troisième invité auteur présent, quatrième invité, mais troisième auteur, Franz Bartelt pour l'Hôtel du Grand Cerf. Hervé.
Alors Franz, quelques mots sur toi. Je crois que dans le peu de choses que je sais biographique, tu es arrivé dans les Ardennes il y a longtemps, là où tu vis.
Trop longtemps, vu l'âge que j'ai maintenant. Oui, je suis arrivé dans les Ardennes. Je suis né en Normandie. Et je suis arrivé dans les Ardennes vers l'âge de 4 ans. J'en dis pas plus, parce que depuis le temps que je le répète, j'ai l'impression de radoter. Donc je préfère ne rien dire là-dessus. Mais enfin, c'était vers l'âge de 4 ans. Je ne l'ai jamais quitté. Je l'ai quitté les Ardennes uniquement pour venir à Arras, quasiment.
Quasiment.
Oui, parce qu'il fait aussi froid que là-bas.
Donc c'est un peu pays, quoi, quand même.
Ah, vraiment. Oui. Hein.
Et c'est une présence exceptionnelle aujourd'hui de Franz Bartelt.
Les Ardennes sont d'ailleurs présentes d'une manière ou d'une autre dans un certain nombre de tes textes. Alors à propos de ces textes littéraires, tu écris depuis longtemps. Bon, il y a à la fois des romans ou des nouvelles, des textes courts. On peut citer parmi les romans les plus connus, les Bottes Rouges. Dans les textes courts, dans les nouvelles, il y a le Bar des Habitudes qui a eu le Goncourt de la Nouvelle, je crois d'ailleurs. Il y a un petit éloge de la vie de tous les jours, qui sont des textes extrêmement courts, à chaque fois sur le jour de... Enfin bon. Et puis, je crois qu'on... Tu n'es... Je crois que tu n'es ni auteur de noir, ni auteur de blanc, réellement. Je crois que cette distinction n'est pas forcément... c'est pas celle que tu prends le plus pertinemment.
Moi, pour moi, il n'y a pas de roman noir et de roman... Enfin, si, le roman noir, c'est le journal de tous les jours, quoi. C'est ça, le vrai roman noir de la vie. Mais pour moi, comme lecteur, j'ai jamais fait de différence entre les polars. Pour moi, c'est de la littérature, tout ça. Et même lorsqu'elle est extrêmement médiocre, j'ai lu beaucoup de mauvais romans quand j'étais jeune. Et j'étais émerveillé. J'ai étonné un tas de gens un jour en expliquant que je connaissais l'œuvre de Guy Descartes par cœur, que j'ai lu entre... Ça ne se disait pas. Il fallait presque le lire en cachette. C'était honteux. Moi, mes copains lisaient Proust quand j'avais 16-17 ans. Mais ils ne disaient rien du tout. Moi, j'ai découvert Proust, j'avais 25 ans, 30 ans peut-être. À 17 ans, j'ai découvert Céline. Alors là, pour être noir, c'est du noir.
Oui.
C'est pas du polar. Mais c'est de la littérature noire.
Oui, bien sûr.
Donc moi, mon... Et comme auteur, j'ai jamais fait de différence non plus entre la littérature noire, et je tiens au mot littérature, et la littérature dite blanche, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, la plupart de mes romans ont toujours des trames un peu policières.
Oui.
Mais parce qu'il faut retenir le lecteur d'une façon ou d'une autre.
Créer une tension.
Donc on crée une tension, on crée des rebondissements, on crée des surprises. Et dans les romans noirs, un roman noir que j'ai lu quand j'étais très jeune, qui n'est pas classé dans les romans noirs, c'était Le Sagouin de François Mauriac, que j'ai lu quand j'avais 14 ans, c'est tout petit. Hein. C'est d'une noirceur épouvantable. Et c'est quand même une analyse sociologique sur les rapports entre des personnages, enfin un mauvais mariage, quoi, un mauvais mariage entre deux classes sociales différentes.
Je pense aussi que un certain nombre de romans de Mauriac, dont celui-là et d'autres, sont des romans qui sont des vrais romans de critique sociale, de quelqu'un qui connaissait bien le milieu dont il parlait. Oui, tout à fait. Ça peut paraître étonnant, mais voilà.
C'est pour ça que ça me gêne toujours quand on dit « Ah, ben, t'as fait un polar ». Non, j'ai pas fait un polar. D'abord, tous mes romans sont improvisés, moi. J'ai pas de plan, j'ai rien. L'Hôtel du Grand Cerf, j'ai commencé ça, c'était une lubie, quoi. J'avais des personnages et je voulais faire une espèce d'autobiographie de ma vie de lecteur, de 50 ans de lecture. C'est pour ça que je voulais faire. C'était le projet, c'était ça. Et puis je suis parti comme ça, avec ce que je vois de ma fenêtre. Et dans tous mes romans, c'est le paysage que je vois de ma fenêtre. Le petit éloge de la vie de tous les jours, je n'ai pas... Tous mes livres sont écrits sur 1 km². Je n'en sors pas. Quand je suis en panne d'inspiration, je vais me promener, je vais donner du pain aux canards, il y a des étangs, et il y a des tas de gens, des retraités, des jeunes, des vieux, ils me racontent des histoires, je reviens, je recopie.
Alors, roman noir, on comprend les nuances, mais en refermant ce roman, moi je me suis dit, roman d'espionnage, alors c'est pas du John le Carré, ou alors du John le Carré dans les Ardennes, ou dans un petit village des Ardennes, et justement, quand vous expliquez que vous regardez par la fenêtre, vous épiez, mais ce roman, c'est ça, tout le monde s'épie, en fin de compte, tout le monde s'espionne dans ce roman.
Bah, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, hein. Et puis, il y a une curiosité quand même de la vie des autres. On a envie de savoir comment les autres vivent, comment c'est chez eux. Je ne sais pas si tout le monde a déjà... Il y en a un qui va chez un tel ou un tel, et il revient, et puis comment c'est chez eux. C'est assez frappant, ça. On a envie de savoir ce qu'il y a derrière les... Je me suis beaucoup promené dans des villes la nuit... Et on a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur des... J'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur ce qu'on voit de la rue à travers les fenêtres. Je ne suis pas plus voyeur qu'un autre, je le suis un peu, quoi, mais parce que quand on écrit, il faut bien des modèles, donc je vais les chercher dans la vie de tous les jours.
Non, mais je disais, effectivement, espionnage plus que voyeurisme, et notamment, il y a un des personnages qui tient des petites fiches, hein, qui remplit tout un tas de petites fiches sur les autres habitants de son village.
Ça, il existe, il y en a des tas. Et j'en ai rencontré un, et c'est lui que je... Lui, c'est un douanier. Hein.
Oui.
Et c'est un douanier belge, mais en fait, il a la mentalité d'un douanier français.
C'est-à-dire,
les douaniers belges, ils s'en fichent, on passait la frontière tant qu'on voulait. Tandis que les Français étaient beaucoup plus administratifs, pointilleux, fouillaient les coffres, les papiers, etc. Mais un jour, ma femme était à la clinique, et donc c'était des chambres où il y avait deux lits. Et elle était partie pour un examen. Et là, je suis resté avec le monsieur, le mari de l'autre dame qui était là. Et il était près de la fenêtre, comme ça. Et il avait un petit carnet. Et puis je lui dis, dans la discussion, comme ça, mais qu'est-ce que vous faites? Il notait tout le temps. Il dit, je note les numéros d'immatriculation des voitures qui rentrent du parking et qui en sortent. Je dis, pourquoi vous faites ça? C'est jamais, ça peut servir. Et le type, il devait faire ça toute sa vie, tous les jours de sa vie. Il devait voir, en cas où il se passerait quelque chose, lui, il aurait vu et il aurait noté. Ah, je trouve que c'est formidable, ça. Et c'est une très bonne occupation.
Hervé ? Non. Alors, on a dit qu'il y a un flic, il y a un policier, mais quand on voit son nom déjà, et puis bon, ensuite son physique, sa corpulence, il s'appelle Vertigo Culbertus, hein, c'était un policier belge. Alors peut-être que les policiers belges sont comme les douaniers belges, ils s'en foutent, mais on sent aussi là un décalage par rapport au code du roman policier, du roman noir, avec le choix de ce personnage.
Non, il s'appelle Vertigo d'abord, c'est référence au film d'Hitchcock, hein, ouais. C'est uniquement ça. Et Culbertus, c'est un nom que j'avais repéré dans les années 70 à Liège. Mais je ne sais pas à quoi il correspond exactement. Par contre, ce que je peux raconter, c'est qu'il y a quand le bouquin est sorti, il a dû sortir en Belgique aussi, on n'aurait pas dû, et je reçois un mail d'un monsieur Culbertus, professeur émérite de l'université de Liège, je crois professeur de médecine, était très content hein, quand même, et qui m'a raconté que son père était inspecteur de police. C'est quand même étonnant. Il y a eu donc véritablement un inspecteur Culbertus.
Et alors, bon, revenons à Vertigo. Quand même, quelque part, c'est un commissaire Maigret puissance 10, question bière, sandwich.
Oui, moi, je le verrais plutôt comme le personnage d'Ignatius dans La Conjuration des imbéciles. Il y en a qui connaissent ça, j'espère. Grand chef-d'œuvre. C'est l'œuvre littérature mondiale.
Donc, on note. Hein, donc.
À la conjuration, c'est, et le titre auteur doit s'appeler Peter Kennedy Toole.
John Kennedy Toole.
Ah, c'est le plus grand roman qui a été écrit au XXe siècle.
Alors, vous... Oui, vas-y.
Avec les métamorphoses d'Ovide, dont j'ai lu...
Au XXe siècle.
Oui, mais dont j'ai lu, il n'y a pas un mois, comme ça, dans un article, dans un magazine littéraire... qu'aucun auteur n'était aussi moderne que lui. Donc Ovide est encore d'actualité.
Mais il a Vertigo Culbertus. Bon, en fait, on l'envoie là parce qu'il est à quelques jours de la retraite, mais comme il y a des attentats, enfin des choses comme ça, la
police... C'est parce que c'est le seul.
Est mobilisé, il n'y a que lui qui est libre. Alors il y va, il n'est pas... Effectivement, il a ce côté gargantuesque dont Guy a parlé. Et en même temps, il va se révéler, et ça, c'est un peu cet hommage aussi... à tes lectures de romans policiers, comme une espèce du héros de Stanislas André Stiman, par exemple, de Monsieur Wendt ou des gens comme ça. Oui. C'est-à-dire, il a une puissance de déduction et jusqu'au final, enfin, qui est...
Ouais. Oui, puis de certains romans de Pierre Véry, oui. Des gens comme ça. Enfin, Pierre Véry, celui qui a fait...
Goupil-Main-Rouge, l'assassinat du Père Noël...
L'assassinat du Père Noël, enfin, il faisait des histoires qui étaient un peu poétiques, quoi.
Oui.
Mais qui sont des histoires policières qui sont très bien faites. Hein.
Cette rencontre se termine. Hein. On a un certain nombre d'invités qui ont un train très, très prochainement. Un dernier mot, Gwenaël. Est-ce que, bon, on a compris, je pense, hein, que ce qui relie ces trois romans, c'est quand même le décalage, l'humour. Est-ce que c'est un critère pour être publié dans cadre noir au seuil ? L'humour, ce décalage, enfin, ce roman noir, quand même... décalé
Non, je pense que l'humour ça fait du bien, donc c'est vrai que je vais assez vers ça, et effectivement les auteurs qui m'entourent sont assez représentatif de ça. Mais non, je pense que la première qualité pour être édité dans le cadre noir, c'est l'écriture, je pense. Voilà, l'écriture et le fait de raconter des histoires. Voilà, ça paraît bête dit comme ça, mais moi j'aime qu'on me raconte des vraies histoires, voilà, qu'on m'embarque et ouais, voilà.
Eh bien, laissez-vous embarquer par Sophie Chabanel avec la griffe du chat. Merci d'avoir participé à cette rencontre. Laissez-vous embarquer par Jackie Schwartzmann demain, c'est loin, prix Jean-Amile Amecker 2018. Et laissez-vous embarquer à l'hôtel du Grand Cerf de Franz Bartelt. Donc, trois ouvrages publiés dans la collection Cadre Noir aux éditions du Seuil. Merci à vous. Merci Hervé. C'était Variations en Noir en direct et en public au Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale du 1er mai à Arras.